Il est 15h50. On va maintenant parler politique américaine avec notre spécialiste Raphaël Jacob. Salut Raphaël.
Salut Marie-Claude.
Alors, troisième jour de la fermeture du gouvernement fédéral américain. Pas de fin de crise en vue, rien de rien.
Loin de ça. Écoute, premièrement, on a une situation carrément surréelle actuellement parce que Washington, D.C. est pratiquement déserte. Il y a un homme qui est là et qui semble être drôlement occupé sur son téléphone intelligent, et c'est le président des États-Unis. Écoute, Donald Trump, depuis ce matin, a lancé déjà 10 tweets sur à peu près tous les sujets inimaginables, évidemment à commencer par la question de la fermeture de l'État fédéral américain à cause du financement, ou plutôt du non-financement du mur à la frontière mexicaine, est allé féliciter l'Arabie saoudite dans ses efforts pour ce qui est de reconstruire la Syrie, et est même allé comparer la réserve fédérale américaine à un golfeur qui aurait de la misère à enfiler un pote.
Ben voyons donc!
Ce n'est pas des farces. Ce n'est pas des farces. On a un président qui a lâché Twitter à minuit hier soir, a recommencé ce matin, et là, c'est un tweet après l'autre.
Ben, tu me corrigeras si je me trompe, mais je disais qu'il y en a fait un où il dit « Je suis seul, pauvre de moi, à la Maison-Blanche, la veille de Noël, pauvre de moi. » C'est vrai?
C'est absolument vrai. Ça fait partie des 10 tweets. Et là, tu parles du président qui est seul à la Maison-Blanche. Il faut comprendre que le Sénat a ajourné jusqu'au 27, donc jusque dans 3 jours, c'est impossible, c'est techniquement impossible qu'il y ait une sortie de crise avant au moins le 27 décembre. Et tu combines ça au fait que le chef de cabinet, le nouveau chef de cabinet intérimaire, on le rappelle parce qu'il n'y a personne qui semble vouloir le job sur une base permanente. Le nouveau chef de cabinet intérimaire du président est allé à l'émission Fox News Sunday hier, une émission d'affaires publiques, et est allé déclarer très clairement que selon lui, on pouvait s'attendre à ce que la crise, donc la paralysie budgétaire, aille au moins jusqu'à la nouvelle année, donc au moins jusqu'au 1er janvier. Et il n'y a aucune espèce d'indication de part et d'autre, soit du côté du président de son équipe ou du côté des démocrates au Sénat, qu'on veut fléchir sur la question du financement du mur. Donc, écoute, ça pourrait durer un bout de temps.
Ben oui, surtout que, Raphaël, en janvier, début janvier, ben là, la Chambre va être majoritairement démocrate. Fait que là, déjà, ça va changer un petit peu la donne pour la suite des choses.
Ça va compliquer la tâche du président, évidemment. Ça va affaiblir sa main pour ce qui est attrait, évidemment, aux négociations avec le Congrès. On rappelle que les démocrates, même s'ils sont minoritaires au Sénat, ont essentiellement un droit de veto. C'est pour ça qu'on est dans la paralysie qu'on est actuellement. Et là, comme tu mentionnes, dans à peine quoi 2 semaines, ils vont devenir formellement majoritaires à la Chambre. Donc, ils vont de facto, si on veut, contrôler un petit peu les 2 chambres du Congrès. Et donc, au risque de répéter ce que je t'ai dit la semaine dernière, on s'en est parlé évidemment à plusieurs reprises de cette question de paralysie budgétaire-là, le président n'aura pas le choix tôt ou tard de reculer au moins en partie sur la question du financement du mur. Et on sait, il réclame 5 milliards de la part du Congrès pour financer la construction du mur à la frontière mexicaine. Les démocrates lui ont donné très clairement une fin de non-recevoir absolue. C'est très, très clair. Et les teneurs démocrates, surtout au Sénat, ont répété ça au courant des derniers jours, comme quoi il n'y avait aucune espèce de façon que les démocrates allaient accorder un sou pour ce mur-là. Et c'est difficile de voir un scénario dans lequel ils bluffent. Ça semble vraiment être le cas. Les démocrates ne vont pas plier là-dessus. Et donc, soit on va avoir une paralysie qui va s'éterniser, ou il va y avoir essentiellement un compromis qui va être fait dans lequel le président va devoir accepter que s'il y a des fonds additionnels qui sont octroyés, ils ne sont pas octroyés spécifiquement pour la construction du mur. Je me permets aussi, Marie-Claude, rapidement de t'ajouter que lorsqu'on parle d'impact économique, là, le président et son équipe risquent d'avoir à tenir compte de ça de plus en plus, parce que si la crise, justement, s'éternise, et que là, il commence vraiment à y avoir un impact palpable sur l'économie, ça, pour la campagne éventuelle de réélection du président, ça peut devenir un enjeu dans la mesure où là, pour la première fois depuis, en fait, son arrivée à la Maison-Blanche, l'économie sous Donald Trump semble montrer des signes d'affaiblissement. Bon. Et donc ça devient une considération importante aussi.
Ouais. Rappelons qu'il y a eu un shutdown, je m'excuse d'utiliser cette expression, mais je trouve qu'elle est courte et qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, qui avait duré 21 jours, je pense, sous Clinton, n'est-ce pas?
C'est exact. Il y en avait eu une assez longue sous Clinton. On en avait eu une autre sous Obama au début du deuxième mandat de Barack Obama. Et on en avait eu un aussi l'an dernier sous Trump, mais qui n'avait pas duré si longtemps que
c'était
ça.
Plus court. C'était plus court.
Et c'était plus court dans un contexte économique qui allait mieux que ça semble être le cas actuellement.
Bon, là-dessus, pour faire un petit peu changement de sujet, mais de moins qu'on puisse dire, raconte-nous donc des belles histoires du temps des fêtes.
deux belles histoires du temps des fêtes, touchant et impliquant en fait deux anciens présidents. L'histoire la plus récente, celle de la semaine dernière, je vais t'en parler, on a manqué de temps la semaine dernière, mais le prédécesseur immédiat du président actuel, donc Barack Obama, a fait une sortie publique assez remarquée à l'Hôpital national pour les enfants à Washington, D.C., au cours des derniers jours, donc déguisé en Père Noël. Il est allé surprendre tout le monde, personne ne l'attendait là, et ça a vraiment été une visite surprise. Il y a eu des images très touchantes qui ont fait le tour des médias sociaux. Donc ça, c'était quelque chose à raconter. Et une histoire un autre ancien président américain dont on a parlé beaucoup au courant des dernières semaines, en raison évidemment de son décès, le premier président Bush, donc George Bush père, qui, on a appris très dernièrement, a entretenu une relation avec, et je ne dis pas de façon inappropriée, là, une relation de parrain avec un enfant, un garçon de 10 ans, des Philippines, et certaines de leurs lettres, de leurs correspondances, en fait, sont devenues publiques au courant des derniers jours, et il y a quelque chose de très, très poignant là-dedans, très beau, parce qu'évidemment, tu avais affaire à un ancien président qui, on s'entend, avait pas besoin de faire ça. C'était vraiment par bonté de cœur, ça donnait un aperçu de l'humanisme de cet ancien président, de ce maintenant défunt président, qui était George Bush père.
Et en terminant, si on cherche une idée de cadeau de Noël de dernière minute, là, c'est le cas de le dire, c'est dernière minute, il reste, sur le web, ça ne sera pas livré à temps, mais il te reste 15 secondes pour me le dire.
C'est grâce à toi, Marie-Claude, je te laisse là-dessus. Trumpy, l'ourson Trumpy pour 37,99. Un cadeau surréel à une ère.
Un ourson avec le toupette orange.
Écoute, la cravate rouge, le toupette orange, la seule affaire qu'on ne sait pas, c'est la grosseur de ses mains.
Oh, c'est pas moi qui l'a dit. Merci beaucoup. Joyeux Noël, cher Raphaël.
Toi aussi,
à mercredi. Bye-bye. On s'arrête le temps des nouvelles.